Salut tout le monde et bienvenue, c'est l'épisode 38 aujourd'hui. On l'a appelé le subjonctif, une montagne insurmontable, avec encore ce point d'interrogation, c'est donc une question. On adore se poser des questions et on va tenter d'y répondre. Nathan est là évidemment et on le retrouve.
Coucou Violaine.
Ça va ?
Tout roule, nickel. Toi aussi ?
Impeccable. Est-ce que tu es prêt pour notre sujet du jour ?
À fond les ballons. En vrai, comme on dit, j'adore les numéros langues, les numéros comme celui-ci sur lesquels on s'arrête pour décortiquer un point de langue, de français, de grammaire, un élément sur lequel, en plus, nos étudiants éprouvent des difficultés, et c'est bien normal, surtout sur celui d'aujourd'hui, un gros morceau auquel on va s'attaquer. Je trouve que c'est un joli défi. En tout cas, il va falloir qu'on soit pédagogue avec ce thème, le subjonctif.
Ouais, ça c'est une certitude et je remarque d'ailleurs que tu viens d'utiliser le subjonctif, déjà, aussitôt dans l'épisode.
Ouais, il va falloir qu'on soit, c'est vrai.
Et je vais continuer là tout de suite parce que j'aimerais, Nathan, qu'on puisse aborder, évoquer ce thème du subjonctif qui est assez costaud, solide. C'est pas un petit point de grammaire que, voilà, normalement on voit quelques minutes. Quand on apprend le français, on y passe plusieurs heures, plusieurs mois même. Et en fait, c'est un apprentissage qui est permanent et continu, le subjonctif. Il faut insister dessus encore et toujours. Donc ouais, c'est un gros morceau, comme tu l'as dit, mais aujourd'hui, on doit le préciser, il faut le reconnaître. C'est impossible de parler normalement français, correctement le français, sans maîtriser, sans utiliser et sans avoir recours à ce fameux subjonctif.
Il est partout, le subjonctif. Tu sais, j'ai une petite anecdote à te partager. Je regardais hier une émission à laquelle participait Emmanuel Macron, notre cher président français. Il était interviewé pour parler des Jeux Olympiques à Paris l'été prochain, cet été. Et très rapidement, tu vois, dans la conversation, il a été amené, comme ça, naturellement, à utiliser certaines structures qui exigent le subjonctif. Alors, je dis Macron, là, pour cet exemple. Mais ça peut être Pierre, Paul ou Jacques, hein, comme on dit, voilà, une petite expression pour parler de monsieur tout le monde, de quelqu'un de lambda.
Exactement.
Donc c'est tout le temps, c'est indispensable, le subjonctif fondamental. On est conscient aussi que c'est une thématique qui est lourde, solide, tu l'as dit. Je pense que les gens qui nous écoutent l'ont compris en une demi-heure à peu près. On va pas avoir le temps de tout voir, mais on va revenir sur l'essentiel. On va essayer de simplifier, d'en voir une grande partie, en tout cas dans ses grandes largeurs, et d'être toujours très clair. C'est vraiment notre objectif pour que tout le monde puisse suivre. Tiens, voilà, encore du subjonctif. Et donc, pour que tout le monde retienne quelque chose, quel que soit finalement le niveau de chacun, parce que c'est important de rappeler, le subjonctif se découvre au niveau B1 à peu près en français, mais se poursuit, se développe ensuite dans le niveau B2, voire en C1 également avec certaines structures, avec des cas plus concrets et surtout plus complexes. Il y a toujours des petites subtilités, hein, dans tous les sens. Donc aujourd'hui, notre objectif est que tout le monde apprenne quelque chose de nouveau, en fait.
Bien sûr. Ouais, donc en clair, Nathan, si les gens qui nous écoutent ont déjà des notions, des bases, s'ils savent à peu près ce qu'est le subjonctif, comment ça fonctionne, pas d'inquiétude, ne nous quittez pas, ça va également vous servir, quel que soit votre niveau.
Tout à fait. Donc, dans un premier temps, on va revoir les bases, à quoi il sert le subjonctif, pourquoi existe-t-il, comment il se construit et à quel endroit de la phrase on le place. On va vous donner les structures essentielles où il faut du subjonctif, tout ce qui va vous permettre en fait de vous débrouiller, de vous en sortir ensuite dans plein de contextes différents de la vie quotidienne, de tous les jours.
Mais on ne va pas se limiter à ça, Nathan, bien sûr que non. Dans un second temps, on va aller plus loin, vous verrez. On vous donnera tout à l'heure nos petits conseils aussi pour bien manipuler, bien manœuvrer et pour enfin se défaire des pièges du subjonctif.
Des pièges du subjonctif, tu as raison. Donc ça, ce sera plutôt vers la fin de l'épisode. Restez bien avec nous, on va illustrer tout cela avec des exemples concrets comme d'habitude. On veut vraiment que vous soyez les maîtres, les pros de ce mode qui est bizarre par moments, surprenant aussi et pour beaucoup d'anglophones notamment, mais pas seulement, c'est un vrai défi à relever, à gagner dans ce long chemin, dans ce chemin en tout cas de l'apprentissage du français. Donc voilà, je pense qu'on peut, on peut y aller. Violaine, c'est parti.
Ouais, et on répondra aussi à cette question quand même qu'on a posée dans le titre. Est-ce que c'est vraiment si difficile que ça? Est-ce que cette montagne que représente le subjonctif est vraiment insurmontable, infranchissable? Je pense que comme toujours, on donnera notre petit avis. Donc pour ça aussi, rendez-vous à la fin de l'épisode.
Très bien. Mais pour commencer, on va pas faire les choses à l'envers, Violaine, on va plutôt faire les choses à l'endroit. Et j'ai envie que tu me dises tout bêtement, tout simplement, là maintenant, ce qu'est le subjonctif, à quoi ça sert? Une petite piqûre de rappel pour tout le monde, ça fait pas de mal.
Non, ça fait pas de mal, c'est sûr. Alors le subjonctif, c'est un mode verbal, on l'appelle comme ça, et en français, il y en a trois. Il y a l'indicatif, le plus important que tout le monde connaît. Donc dans l'indicatif, il y a entre autres le présent de l'indicatif qu'on apprend quand on commence, le passé composé, l'imparfait, le futur simple, etc. Le futur proche. Voilà, il y en a d'autres, mais voilà, l'indicatif, tout le monde connaît, c'est le plus connu, on va dire, et le plus important.
L'indicatif qu'on utilise pour quoi ?
L'indicatif, c'est pour les faits, pour les actions plus sûres, celles qui sont réelles, celles qui se sont déjà passées ou qui se passent actuellement ou qui vont se passer plus tard dans le futur. L'indicatif, c'est le mode de la certitude.
C'est ça.
Et c'est important de le préciser parce que bah, vous le verrez ensuite. Donc, il y a l'indicatif. Ok. Et ensuite, en français, on a aussi l'impératif. Donc, l'impératif, c'est le deuxième mode pour notamment donner un ordre, mais aussi un conseil.
Fais tes devoirs, prends ta douche, mange lentement. Ça, c'est un conseil à l'impératif. Voilà, il n'y a pas de pronom sujet à l'impératif.
Voilà.
Et ensuite ?
Et le troisième auquel on s'intéresse maintenant, c'est le subjonctif, sans surprise. Et dans ce mode du subjonctif, il y a plusieurs temps. Mais c'est vrai que depuis quelques années, on utilise principalement, et je dirais même uniquement, le subjonctif présent et passé, deux temps du subjonctif. Je pense que c'est suffisant et c'est déjà très bien de se limiter à ces deux temps.
Oui, d'autant que le reste est un peu désuet aujourd'hui en 2024 et ça relève davantage des textes plus anciens, de la littérature notamment, mais quasi plus personne en fait ne s'en sert. Et donc, parmi ces deux temps, le passé et le présent, le plus important, c'est le présent. C'est-à-dire, si on maîtrise le présent du subjonctif, si on arrive à le placer par-ci, par-là, c'est déjà largement suffisant pour bien se débrouiller, pour très bien s'en sortir. Donc, le subjonctif, j'ai envie de peut-être de te demander à quoi ça sert maintenant, quelle différence finalement il y a entre le subjonctif et l'indicatif. Pourquoi on va en choisir un, en privilégier un, au détriment d'un autre ?
Bah, en fait, le subjonctif, j'ai envie de te dire, c'est un peu le contraire de l'indicatif. Le subjonctif, c'est plus le mode de l'incertitude, quand on n'est pas sûr. Donc les sentiments, les choses qui sont désirées, qui sont souhaitées, les doutes.
Ouais, les ordres aussi, les besoins, la nécessité. Et en fait, Violaine, quand je réfléchis bien, en fait, le subjonctif, c'est la nuance. C'est le mode de la nuance. C'est le mode qu'on utilise pour donner son avis, donner son opinion. C'est le mode de l'émotion aussi. Hein. Mmh. Le subjonctif, c'est tellement fréquent à l'oral quand on parle, nous, mais aussi évidemment quand on écrit, pour être précis, tu vois, à l'écrit, afin d'être nuancé, pour faire part de ses impressions et de ses sentiments, comme tu nous l'as dit, Violaine, juste avant. Donc, voilà, ça c'est important en tout cas de le savoir d'un point de vue théorique, c'est la règle. Maintenant qu'on a dit ça, je crois qu'on peut entrer dans les détails un peu plus, non ?
Ouais, tu veux des exemples concrets, non, toi ?
Je t'écoute.
Faut en donner parce que ouais, tout ça reste vague, ça reste abstrait même, j'imagine, pour certaines personnes qui nous écoutent et qui galèrent, qui se sentent un peu perdues. Donc, comment reconnaître le subjonctif ? À quel moment l'utiliser ? Et surtout, on l'emploie avec quoi ? Avec quelles expressions ?
Alors moi, j'aime rappeler à mes étudiants, dans un premier temps, qu'il y a une poignée de structures. Alors, ça se compte sur les doigts d'une main, peut-être pas des deux mains, hein, comme on dit cette expression. Mais voilà, c'est ces structures qui doivent nous alerter, qui doivent retenir notre attention et nous dire « waouh ». Si je veux utiliser ça, ou si j'entends cette structure, ces quelques mots, bim, c'est automatique, il faut du subjonctif. Par exemple, concrètement, l'expression « il faut que ». « You need to ». « You have to », qui est très courante, qu'on dit tout le temps en français, eh bien après, il faut que, on met du subjonctif. Ça, c'est la règle de base, la première à connaître, la plus importante. C'est toujours sympa quand même de le rappeler.
Ouais, je vais faire un petit exemple. « Il faut que tu sois à l'heure », et pas « il faut que tu aies à l'heure ». C'est le verbe « être », mais au subjonctif. « Il faut que tu puisses venir chez moi ce soir ». Puisse, qui est le verbe pouvoir au subjonctif.
Pouvoir, très bien, ouais. Qui est un verbe irrégulier d'ailleurs et au subjonctif. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 10 verbes irréguliers. Il faut les apprendre évidemment car ce sont les plus connus et qui reviennent sans cesse. Mm-hmm. Donc il y a pouvoir, savoir, vouloir, valoir, pleuvoir, faire. Et allez, j'ai envie qu'on s'arrête sur les trois autres, les trois derniers, les plus importants certainement parmi ceux qui sont irréguliers. Être, avoir et aller.
Ouais, parce que même s'il y a des gens qui nous écoutent et qui doivent les connaître, je trouve ça chouette qu'on s'arrête sur ceux-là particulièrement, parce que en fait leur prononciation est délicate. La liste des verbes, vous pouvez les trouver sur internet, voilà, facilement. Mais la chose que je remarque souvent chez mes étudiants, ce qui leur pose problème, c'est pas de les apprendre, c'est plutôt de les prononcer correctement. Voilà, donc le verbe être au subjonctif, par exemple, que je sois, que tu sois. Qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit.
Ouais, que nous soyons, que vous soyez. Mm. Pas forcément évident et surtout, c'est souvent mal prononcé. Moi, je trouve que le verbe avoir est celui où les étudiants galèrent le plus. Mm. Avoir, c'est particulier. Vous allez voir pourquoi. Il faut que j'ai de l'argent pour vivre, par exemple. Il faut que tu aies, A-I-E-S. Il faut qu'il ou qu'elle ait. A-I-T. Il faut que nous ayons, il faut que vous ayez et il faut qu'ils aient. Donc quatre fois le son « et » qui est semblable à quoi en français, Violaine ?
Bah, à être, mais au présent normal, au présent de l'indicatif.
Exactement. Il est français, il est anglais, elle est espagnole. Là, c'est le verbe « être », mais c'est exactement le même son que pour le verbe « avoir » au subjonctif. Est-ce que tout le monde me suit, tu crois ?
Moi, je te suis en tout cas, donc bon, c'est déjà bien.
C'est déjà bien. De toute manière, j'en profite pour rappeler aux gens qui nous écoutent qu'on retrouve la transcription gratuite sur notre site. Là, c'est certainement bien pratique pour nous suivre et pour suivre ce qu'on est en train de raconter.
Tu trouves pas que le verbe « aller », un autre verbe irrégulier, est aussi mal prononcé à l'oral, en général ?
C'est très souvent le cas, ouais. Ça donne quoi, alors, au subjonctif, le verbe « aller » ?
Que j'aille, que tu ailles, qu'il, elle, aille, que nous allions. Attention, il y a deux L, mais on prononce comme s'il n'y en avait qu'un seul L. Que vous alliez, pareil, deux L, mais on n'en prononce qu'un. Et le dernier, qu'il ou elle aille.
Il faut que j'aille travailler, par exemple. Il faut que vous alliez en France passer des vacances. Petite anecdote, c'est la même prononciation, exactement la même que... Pour, tu sais, Violaine, une passion que l'on a en commun, une chose que l'on adore tous les deux, manger, surtout l'été, mais pas que. Et ce qui donne beaucoup de goût à nos plats.
L'ail, bien sûr, garlic, en anglais.
L'ail qui est quoi ? Qui est un...
Un condiment, on appelle ça comme ça. Ouais. L'ail, c'est bien vrai, t'as raison, on dit aussi ail. Souvent, quand on a mal, quand on se fait mal, quand on a une douleur, c'est le même son.
Ouais. Donc, pour la prononciation d'aller au subjonctif, c'est notre petit conseil de penser à ça. L'ail, le condiment, et aïe pour la douleur.
Voilà pour les verbes irréguliers. Pour bien les apprendre et les découvrir plus en détail, franchement, je crois que vous n'avez pas besoin de nous. Tapez ça sur Internet et en un clic, vous les trouverez. Après, il faut juste les apprendre par cœur pour les mémoriser.
Et pour les verbes réguliers, cette fois, Violaine, peut-être qu'on va les rappeler en deux secondes, même si je sais que nos auditeurs sont les meilleurs et doivent certainement connaître tout ça.
Évidemment, j'en suis convaincue, mais allez, très très rapidement, ne nous quittez pas, restez connectés. Pour la forme régulière, bon, c'est simple, c'est tous les verbes qui ne sont pas irréguliers, donc tous les verbes en français, sauf les 10 dont on vient de parler. Donc en gros, on prend la troisième personne du pluriel au présent normal. Par exemple, manger, la troisième personne du pluriel, il ou elle mange. Okay ? On prend le radical, qui est donc la première partie du verbe, et ensuite, on ajoute à la fin du verbe les terminaisons qui sont donc E, ES, E, I-O-N-S, I-E-Z, E-N-T.
Que personne ne s'inquiète, Violaine, on va donner un exemple maintenant. Avec manger peut-être, on garde le même verbe.
Il faut que tu manges, il faut que nous mangions, il faut que vous mangiez.
Voilà, un autre exemple avec un verbe un peu plus difficile, un verbe du deuxième groupe, toujours régulier au subjonctif. J'ai pensé, moi, à choisir.
Pas mal. Choisir ou finir, donc ouais, les deux verbes qui appartiennent au deuxième groupe. Donc là encore, on prend la troisième personne du pluriel au présent de l'indicatif. Je t'écoute.
Donc, ils ou elles choisissent, ils ou elles finissent. Donc, on prend la première partie du verbe et on ajoute la terminaison du subjonctif de la forme régulière. Donc, ça fait il faut que je choisisse, il faut que tu choisisses, que nous choisissions, que vous choisissiez.
Bravo.
Pas
Ta langue n'a pas fourché, mais même si la prononciation est pas facile, même pour nous natifs. Et en fait, là, je réfléchis, on remarque quand même l'importance de bien connaître le présent de l'indicatif,
complètement.
le présent basique, et notamment la troisième personne du pluriel, parce que c'est grâce à ça qu'on peut ensuite former le subjonctif, en fait.
Sans présent de l'indicatif, sans avoir recours au présent de l'indicatif, on ne peut pas maîtriser le subjonctif. Donc c'est très important, c'est très juste, Violaine, de nous le rappeler. Voilà, pour en tout cas cette partie qu'on ne pouvait pas vraiment ignorer ou survoler. Maintenant, peut-être que c'est plus intéressant aussi de s'arrêter sur ces structures et ces expressions qui demandent, qui exigent le subjonctif. On vient de voir tout à l'heure, il y a quelques minutes, il faut que. Passons à la suivante. Une autre très utile qui doit vous mettre la puce à l'oreille, qui doit vous interpeller et vous dire, tiens, là, c'est du subjonctif. C'est comme ça, c'est automatique. Est-ce que tu peux peut-être nous la donner, Violaine?
Ouais. J'aimerais que, je souhaiterais que, je voudrais que. Tous ces verbes, je les ai dit au conditionnel, mais ça peut être au présent, au passé, au futur. Donc, aimer que, souhaiter que, vouloir que.
Exactement. Est-ce que tu peux nous donner un exemple?
J'aimerais que tu viennes voir le match de foot ce soir au pub.
Super. Donc là, c'est un verbe régulier, venir. J'en ai un aussi. Je veux que tu sois prêt dans 10 minutes pour aller au ciné. Et puis tiens, une deuxième. Je voudrais qu'il fasse sa valise pour partir en France.
On vous rappelle, dans cet épisode, on vous donne les structures, les expressions que nous, on juge les plus fréquentes, qui reviennent le plus et qui ont besoin du subjonctif.
C'est vrai, c'est subjectif.
C'est ça, c'est subjectif. Je t'en donne une troisième, si t'es prêt.
Troisième structure, troisième expression qui nécessite le
Voilà.
subjonctif. Vas-y, je t'écoute.
Il est possible que, c'est possible que. Exemple,
Ouais.
c'est possible que Joe Biden perde la présidentielle américaine. C'est possible que Joe Biden soit président pour un deuxième mandat.
Donc, deux possibilités. Mais ce n'est pas sûr, hein, dans les deux cas, évidemment. Donc là, on utilise du subjonctif. Pour l'élection, en tout cas américaine, on verra bien. Tu as donné les deux éventualités, les deux possibilités, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Moi, je vais te donner, et je vais continuer en te donnant ces deux, trois verbes d'opinion que l'on utilise certainement dans chaque épisode. En tout cas, ça ne m'étonnerait pas, car les Français les utilisent, les surutilisent même, à mon avis. Donc ça, c'est toujours pour donner son opinion. Et donc, c'est les fameux « je crois que
Ouais, je trouve que, je considère que.
»,« je
Alors,
pense que
voilà, tous ces verbes. Alors, dans cette forme-là, quand c'est positif à l'affirmatif, rien de spécial, c'est de l'indicatif.
». Ouais, c'est de l'indicatif. Donc, « je pense que tu as raison »,« je crois qu'elle est sympa », par exemple.
Et en fait, c'est à la forme négative que ça se gâte, que ça se complique un peu. On va dire, je ne pense pas que tu aies raison, je ne crois pas qu'elle soit sympa.
Donc voilà, toute la difficulté ici est de jongler entre les deux formes. Souvent, on passe d'une à l'autre dans une conversation. Par exemple, on va dire « Oh, je trouve que ces chaussures-là sont belles. Par contre, celles-ci-là, je trouve pas qu'elles soient très confortables. Je trouve pas qu'elles soient très confortables.
Et
» Voilà.
c'est là, en fait, où parfois on peut être bloqué quand on ne pratique pas, même si sur ce point, peut-être pour rassurer un peu nos auditeurs, c'est vrai que nous, les Français, sur ces verbes d'opinion, à l'oral, hein, je précise, on utilise très souvent l'indicatif, on mélange les deux, en fait.
Ouais,
Voilà,
c'est
on
très
est
commun.
flexible.
On est flexible, c'est très très commun. Mais je trouve ça chouette, tu vois, de savoir qu'avec le verbe à la forme négative, on applique le subjonctif. C'est bien de
Exactement.
s'entraîner dans ce sens-là.
Et ce serait excellent si tout le monde pouvait correctement l'utiliser. Ensuite, la cinquième chose, et ça c'est évidemment extrêmement important, la cinquième chose que j'aimerais qu'on précise, c'est la question des sentiments. Et il y en a tellement, mais quand on utilise un adjectif, un verbe qui concerne ces sentiments au sens large, automatiquement, c'est du subjonctif. Par exemple, Nathan, je suis super heureuse qu'on aille à la plage ce week-end.
Et moi, je suis triste qu'il ne fasse pas beau aujourd'hui et j'ai peur qu'il pleuve ce soir.
On pourrait évidemment faire 1000 exemples de sentiments différents.
Je suis énervé que tout le monde veuille partir au même endroit pendant les vacances.
Veuille, pour vouloir. Voilà les sentiments. Évidemment, ça c'est obligatoire en français parce que on donne souvent nos impressions, on partage nos sentiments, notre joie, notre colère aussi, on le sait.
Ouais, beaucoup notre colère. Carrément, tu as raison de le dire. On pourrait ajouter d'autres choses aussi au subjonctif. Tiens, trois expressions quand même essentielles sur lesquelles on mérite de s'arrêter, à mon avis. Et il y a « pour que », « bien que » et « avant que ».
Ouais, n'oubliez pas systématiquement, c'est du subjonctif après. Par exemple, je vais prendre 2 semaines de vacances cet été pour que nous puissions aller en France.
Bien qu'il fasse un peu chaud, je ne mets pas la clim chez moi. L'air conditionné.
Avant que tu ailles à la salle de sport, je te conseille de bien t'hydrater en buvant de l'eau.
Avant que tu ailles, avant que tu fasses. Pour info, avant que, c'est du subjonctif, mais pas après que. Rappelez-vous un autre épisode sur les fautes de français. Je ne sais plus, c'était lequel, le 15e, je crois.
Je crois, ouais.
Et on en avait déjà parlé. Après que, c'est l'indicatif. Voilà, ça c'est fait, Violaine, en tout cas, voilà pour l'essentiel, les grands principes du subjonctif, en tout cas de notre point de vue.
Et notre sélection est, comme on l'a déjà dit, assez subjective.
C'est la nôtre. On a fait des choix et j'ai envie de te dire que si c'était, Violaine, si simple, le subjonctif, si c'était si facile, eh bien ça se saurait. Et c'est pourquoi je te propose maintenant qu'on passe peut-être à la deuxième partie de cet épisode. Je crois que ça va être intéressant, en particulier pour nos niveaux les plus avancés.
Ouais, pour eux, certainement, ce qui a été cité avant, il y en a qui étaient déjà au courant. Mais maintenant, ça va se corser un petit peu, en effet.
Ouais, parce que moi, personnellement, je trouve que la difficulté majeure dans l'apprentissage du subjonctif, et on l'a déjà évoqué tout à l'heure sur quelques aspects, mais cette difficulté, elle réside principalement dans une chose. C'est dans l'alternance entre l'indicatif et le subjonctif. À quel moment il faut utiliser le premier et quand est-ce qu'il s'agit du second ?
Déjà, il y a des expressions pour ça, toutes celles dont on vient de parler, qui en fait te donnent automatiquement la réponse. Il faut que, bim, direct, c'est du subjonctif, là, il n'y a pas de débat. Après, c'est vrai que dans quelques cas, c'est un peu moins clair et la limite est plus floue, plus brouillonne. Mmh. On hésite un peu, on ne sait pas trop quoi mettre.
Et c'est là où ça devient compliqué, quand on ne sait pas entre les deux lequel mettre, lequel choisir. Est-ce que tu peux nous donner un exemple, nous faire un exemple ?
Ouais, bien sûr, en tête, là, j'ai toutes les expressions impersonnelles. Donc, tu sais qu'il commence par « il ».
Ouais.
Il est probable que, il est nécessaire que, il est certain que, et il y en a d'autres.
Il y en a d'autres, il y en a pas mal. Hein. Il semble que.
Ouais, exactement. Ces expressions, parfois, c'est assez clair, c'est assez évident. Si c'est une action certaine, c'est de l'indicatif.
Oui, si tu dis « il est certain que » ou « c'est certain que », c'est facile, donc là, c'est de l'indicatif. Il est certain que la France est un pays européen, par exemple.
Par exemple, très bon exemple. Mais si je te dis « il est probable que », là, tu me dis quoi ?
Il est probable que, là, j'ai envie de te dire que ça dépend.
Bravo, c'est ça.
Et j'ai envie de te dire qu'on utilise les deux, en fait, même. Mmh. Les deux sont corrects, les deux formes sont correctes, sont justes, mais qu'on va les utiliser de manière différente, qu'il y aura une légère différence.
Ouais, on va faire un exemple. Donne-moi la différence entre ces deux phrases. Je vais te dire deux phrases qui sont quasi les mêmes. Écoute bien. La première, il est probable qu'elle vienne à la fête ce soir. Et la seconde, il est probable qu'il viendra à la réunion. Quelle est la différence de sens ?
Donc, il est probable qu'elle vienne à la fête ce soir, c'est au subjonctif. Et la deuxième, tu as dit, il est probable qu'il viendra.
C'est ça.
À la réunion. Donc, la deuxième est au futur, mais de l'indicatif. Alors, la nuance est toute fine, toute petite. Mais je dirais que la première, celle qui est au subjonctif, c'est incertain. C'est du 50-50. On ne sait pas du tout si elle viendra. On a de l'espoir, mais c'est pas sûr. Alors que dans le deuxième cas, d'après le contexte, on est plus optimiste, on y croit, et certainement qu'il va venir à la réunion. Est-ce que j'ai juste?
Ouais, je pense qu'on peut l'interpréter comme ça. Voilà la toute petite nuance, la toute petite différence, mais qui est très intéressante.
À mon tour, maintenant, j'en ai une, c'est vraiment pas évident. C'est plus compliqué, selon moi. Si je te dis, c'est la plus belle personne que tu as rencontrée dans ce voyage. C'est la plus belle personne que tu as rencontrée dans ce voyage. Ou c'est la plus belle personne que tu aies rencontrée dans ce voyage. Donc la deuxième est au subjonctif.
Ouais.
D'ailleurs, on entend souvent les deux en français par les natifs, hein. Elles sont confondues, mais comment les différencier? Laquelle choisir?
Je pense que les deux sont corrects, et en fait ça dépend juste de ce que tu veux dire, quoi. Si tu veux insister sur le côté subjectif de ton opinion, c'est toi qui dis que c'est la plus belle personne de ton voyage, c'est pas objectif. Donc en fait, par modestie, tu vas utiliser le subjonctif. En revanche, par contre, si tu préfères la phrase à l'indicatif, là, c'est certainement que tu es beaucoup plus sûr de toi et que tu veux presque crier haut et fort que c'est toi qui as raison.
Ah, c'est assez intéressant sur ce côté subjectif de ton opinion, qui serait la raison pour laquelle, en fait, il faudrait du subjonctif dans ce cas-là. On peut voir les choses différemment, c'est mon avis, je te le partage.
Vas-y.
Et considérer dans ce cas que si tu utilises le subjonctif, tu as peut-être un doute sur ton jugement. Dans le sens où, oui, tu as rencontré tellement de belles personnes pendant ton voyage que tu n'es finalement pas totalement sûr de toi, tu vois ? En tout cas, moi, je trouve ça fou. C'est très subtil, mais je crois que cette subtilité, cette presque élégance, en fait, du subjonctif, le rend encore plus fascinant.
Ouais, on en revient en fait à cette notion de nuance, quoi, comme souvent, et c'est toute la beauté du subjonctif de pouvoir exprimer ses sentiments, son opinion comme ça, avec précision, au plus près des choses, et on quitte le réel finalement.
En quelque sorte, ouais, totalement. On s'éloigne des faits et ça fait du bien. Alors, certes, c'est pas évident, le subjonctif, c'est pas simple. Certes, il y a des choses qui paraissent complètement absurdes, saugrenues, tirées par les cheveux. On pourrait compliquer la tâche encore avec le subjonctif. Je sais pas si on le fait. Allez. C'est tentant. Tout à l'heure, on vous a dit, et on a dit que l'expression « je trouve que » c'était suivi de l'indicatif, évidemment, ça c'est vrai, ça n'a pas changé en quelques minutes, mais on aurait pu compliquer l'exercice en disant quoi, tiens Violaine ?
En disant que lorsqu'on ajoute un adjectif entre « trouver » et « que », ensuite c'est du subjonctif.
Je trouve incroyable que tu saches ça. Je trouve fou que ce soit si dur, le subjonctif.
Mais Nathan, on aurait...
On a juste ajouté un adjectif.
Et on a changé le mode. Mais Nathan, on aurait pu aussi ajouter que, oui, on dit « Oh, vous pensez que, vous croyez que », avec ensuite de l'indicatif.
Ça n'a toujours pas changé.
Ça n'a toujours pas changé en quelques minutes. Mais est-ce que les gens qui nous écoutent savent que quand on pose une question, quand on inverse donc le sens des mots, c'est le subjonctif qui peut et doit même s'appliquer.
Dans le cas, en tout cas, où c'est une incertitude, évidemment. Donc, croyez-vous qu'il soit assez compétent pour ce poste. Là, tu vois, on sent le doute, on a peur, on est inquiet, on n'a pas vraiment confiance en lui. Et des cas, voilà, comme celui-là, la question inversée, en tout cas la structure inversée, il y en a d'autres dans le subjonctif avec à chaque fois des particularités, des éléments très spécifiques. Donc évidemment, on ne pouvait pas tout vous dire aujourd'hui, tout développer. Cela nous aurait pris des heures, en fait. Ça nous aurait pris des heures et des heures.
Exactement. Mais peut-être on a quelques conseils à donner, à suggérer ?
Bien sûr, plusieurs même. D'abord, de mon côté, je conseille à tous d'observer en écoutant, en lisant à chaque fois lorsque quelqu'un parle et utilise comme ça le subjonctif pour bien voir comment ça marche. Ensuite, j'ai un deuxième conseil. Selon moi, c'est tout simple. C'est de bien apprendre les structures qu'on vous a données dans cet épisode. Et avec ça, évidemment, apprendre ces verbes irréguliers et puis les verbes réguliers, parce que sans eux, on ne peut rien faire. Et à partir de là, après ça, une fois que ce sera dans la tête, à mon avis, la moitié du chemin sera parcouru.
Ouais, je suis d'accord, et je dirais même, allez, je suis plus optimiste que toi, je dirais même 70% du chemin est parcouru. Et après, le reste se fait bah, en étant patient, en persévérant, et surtout, évidemment, sans surprise, en pratiquant. Faut parler, faut écrire, faut être confronté au subjonctif très très souvent.
Il faut l'affronter. Et en fait, il faut manger du subjonctif, comme on dit. C'est vraiment cette idée-là, en n'ayant pas peur des erreurs, en n'ayant pas peur de se tromper, c'est pas grave, les fautes. Au contraire, c'est génial, c'est comme ça qu'on apprend.
Bah ouais, exactement. Et d'ailleurs, dans le club de production écrite, le Panache Writing Club, on pratique le subjonctif. On le voit en B1 dès le début, et en B2 et en C1 dans les trois niveaux, donc dans nos trois groupes.
Tu fais bien de le rappeler, le subjonctif, on l'a vraiment mis au cœur de notre programme, de ce club d'écriture, tellement on le trouve, voilà, primordial, essentiel, parmi plein d'autres choses passionnantes aussi à retrouver dans notre club. Donc voilà, vous pouvez évidemment le rejoindre. Et pour Violaine, pour répondre quand même à notre question en titre de cet épisode, c'est une montagne, le subjonctif? Allez. Moi je dirais une moyenne montagne, mais elle n'est pas insurmontable, elle n'est pas infranchissable. Le subjonctif, bah, il s'apprend, il se pratique, il se cultive. Et bah, avec quoi? Avec quels ingrédients? Déjà du temps.
De la patience, de la persévérance, de l'humilité.
De l'humilité et puis beaucoup de motivation et surtout encore plus d'entraînement.
Comme en alpinisme. On espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, alors n'oubliez pas les 5 étoiles et puis un petit commentaire aussi. Et on se retrouve très vite. Ciao!